Vous écoutez
RMC.
RMC.
Oui, à titre personnel, c'est ma première victoire. C'est vrai que les trois victoires que j'ai effectuées avant, se sont résumées que par des défaites.
Aujourd'hui, ça paye ses fruits.
Et à l'inverse de ça, ce qui arrive souvent dans le football, c'est que l'équipe qui est à 10, elle se sent montée des ailes.
Il va falloir dégonfler un peu les têtes.
Si je puisse faire 10 ans ici, ça serait magnifique.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RMC, un afterfoot de 2 heures. Vous le savez, en ce dimanche, nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde, RMC Radio officielle du Mondial, du 11 juin au 19 juillet. Vous suivrez évidemment tout. Ils sont là en pleine forme. Nous avons un trio ce soir. C'est Fabrice Hawkins, Kevin Diaz et Maxime Chano. Bonsoir messieurs.
Salut à tous.
Tout va bien ?
Ça va très bien, toi, oui.
En pleine forme, écoutez, on est prêt, on se prépare pour le grand départ, évidemment, parce que vous le savez, on a le bonheur avec RMC de délocaliser l'antenne à New York, donc on vous fera vivre évidemment ça sur site avec les trois pays organisateurs. Il y a évidemment les États-Unis, le Mexique et le Canada. Messieurs, avant de vous donner le programme, une information importante, vous le savez, c'est Eriksen qui a eu un nouveau malaise lors d'un match aujourd'hui. Les nouvelles sont plutôt bonnes. La Fédération du Danemark a communiqué et le joueur va bien. C'était lors du match face à l'Ukraine. On rappelle évidemment qu'Eriksen avait déjà été victime d'un malaise terrible il y a quelques années et il vit depuis avec un pacemaker.
Ça sent la fin, non ? Pour lui. Quand je dis la fin...
Professionnel,
oui.
En tout cas, le principal, c'est qu'évidemment... Les nouvelles données par la fédération sont bonnes. C'est la santé avant tout. Le programme, messieurs, Didier Deschamps qui fait ses adieux à Clairefontaine. Et oui, Dédé a quitté le château cet après-midi, direction Lille. On sera avec Arthur Perrault, l'avis de Kevin Diaz, un avis tranché. On parlera également de différentes nations qui vont évidemment jouer cette Coupe du Monde. On fera un point sur le Maroc, demi-finaliste en 2022, sur la Mannschaft qui reste sur 2 gros échecs. Et puis la Belgique. La Belgique avec Rudy Garcia, le français, est un outsider ou pas. Et puis nous parlerons également de ce qui se passe pour l'Iran. Vous le savez, nous avons Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial, là-bas à Tijuana. L'Iran n'a pas pu finalement avoir son camp de base aux États-Unis, donc ils se sont repliés sur le Mexique. Vous saurez tout, évidemment, avec une situation qui est forcément compliquée pour les joueurs de la sélection iranienne. L'After Foot, c'est parti. On va prendre tout de suite la direction de Lille et retrouver Arthur Perrault, notre suiveur des Bleus au quotidien. Là, c'est ton sprint final qui commence, Arthur, évidemment, avec ces matchs amicaux et cette Coupe du Monde.
Salut,
et on espère un travail jusqu'au 19 juillet. Tout va bien, Arthur ?
Tout va bien. La ligne droite, ne fait que commencer.
La ligne droite est aussi longue en fait que le tapis qu'il y avait pour les Parisiens lors de la célébration de la deuxième étoile en fait.
C'est un peu ça. C'est un peu un tapis sans fin. Ouais.
Exactement.
Et on ne connaît pas quand il s'arrête.
Arthur, dis-nous tout. On rappelle que l'équipe de France a joué un premier match amical. C'était jeudi soir à la Beaujoire à Nantes. Demain, il y aura le dernier match en France. Ça sera face à l'Irlande du Nord à Lille. Et après, ça sera la direction les États-Unis, évidemment. Donc, Didier Deschamps a dormi pour la dernière fois hier soir à Clairefontaine, parce qu'on sait qu'il ne sera plus le sélectionneur des Bleus à l'issue de cette Coupe du Monde. Parle-nous de ses adieux et de ce que a ressenti le sélectionneur des Bleus, même si on sait que c'est pas un grand sentimental. En tout cas, il ne laisse pas transparaître beaucoup de choses.
Oui, et d'ailleurs ça on l'avait très bien ressenti un peu plus tôt cette semaine lors du match à Nantes face à la Côte d'Ivoire où il avait eu le droit à la 7e minute de jeu, un hommage de la tribune Loire où avaient pris place les irrésistibles français avec un immense tifo, avec plusieurs banderoles en hommage à lui mais aussi à son staff technique. Et voilà, il avait fait un petit geste de la main mais pas plus. C'est vrai qu'il a pas l'habitude de montrer ses sentiments et cela s'est aussi ressenti ce matin au moment de quitter Clairefontaine pour la dernière fois, où il y avait un long tapis bleu qui était déroulé sur les marches du château et où l'ensemble des salariés du château de Clairefontaine s'étaient donné rendez-vous pour applaudir une dernière fois le sélectionneur au moment de son départ pour Lille. Lille où il a participé à la traditionnelle séance où il a effectué la traditionnelle séance de veille de match. Il s'est aussi présenté en conférence de presse et forcément que la question a été posée. Lui qui s'apprête à disputer demain soir au stade Pierre-Mauroy son dernier match à la tête de l'équipe de France. Et forcément, il était un peu plus ému cette fois-ci.
Depuis que je suis arrivé à Clairefontaine, il y a beaucoup de choses que j'ai fait pour la dernière fois. Donc si j'y pense à chaque fois, c'est la réalité. Ça m'attriste pas. Je vais pas sauter de joie non plus. C'est factuel. Ce qui est important pour moi, au-delà de mon cas personnel, même si l'hommage à Nantes aurait été très émouvant, même si c'est situé en per match et les joueurs, ils étaient en train de jouer, concentrés sur ce qui se passe sur le terrain. Mais le fait de ces deux matchs en France, avant notre départ, d'être au contact de nos supportrices, de nos supporters, de faire le plein d'énergie avec de soutien, d'enthousiasme, que des choses positives par rapport au groupe France.
Voilà, demain soir, il y aura encore des hommages. Hein. Il avait eu le droit à quelques animations à Nantes et ce sera la même chose du côté du stade Pierre-Mauroy pour Didier Deschamps.
C'est vrai que l'enthousiasme de Didier Deschamps là qu'on vient d'entendre, c'est vrai que ça va nous manquer ça, hein, parce qu'il dit qu'il a pris beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme de la part des supporters. Ça, c'est quelque chose vraiment qui va être vraiment un grand manque pour tous les suiveurs de l'équipe de France.
Ouais, on le connaît notre Didier Deschamps, hein, c'est pas le plus expressif. Il nous l'a montré encore une fois. Oui, si tu peux mettre sur ce.
Ce qui prend du plaisir dans le football, Camille.
Mais évidemment, il le dit toujours. Il nous a déjà dit que de toute façon, il allait pas être un retraité pendant de longues années. Il va pas passer son temps à siroter des picoladas.
Il va pas jouer au paddle sur la Côte d'Azur.
Alors quoi. Ça, oui, mais oui. Pas non, que paddle, parce qu'il le fait déjà.
Ah oui, il adore. Mais là, il est sélectionneur. Là, il est pas.
Oui, et alors, tu peux être sélectionneur et jouer au paddle.
Et puis, tu sais, un sélectionneur en général, il travaille pas 12 mois dans l'année. Voilà. Donc ouais, c'est vrai qu'il. Ah, non,
mais... C'est déjà un excellent joueur de paddle, bien évidemment, mais on a bien compris qu'il n'allait pas prendre a priori 10 années sabbatiques. On est d'accord, Arthur, on sent que de toute façon, il est habité par le fait d'entraîner, de gagner, d'être stimulé par quelque chose.
Oui, en fait, lui, il a horreur que, typiquement pour demain, que l'on dise que c'est son dernier match en France. Il dit, mais qu'est-ce que vous en savez? Ça se trouve, je reviendrai, je serai entraîneur d'une autre équipe. Donc c'est pour ça que la formulation est hyper importante en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et ça, il y tient véritablement.
Non, en fait, tout est possible en réalité, là, après l'équipe de France et après la Coupe du Monde. Moi, je reste convaincu quand même, au vu de tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il peut pas prendre n'importe quel banc, mine de rien, Didier Deschamps. Il veut une équipe qui puisse gagner.
Il y a la place à Nantes, même si Derzakarian devrait revenir.
Ça ne leur aura pas échappé qu'ils ne vont pas jouer les premiers rôles. Vous leur verriez repartir sur une équipe professionnelle, c'est-à-dire même pas une équipe nationale, vraiment un club.
Un club de très haut niveau où il peut gagner, et notamment la Ligue des Champions, oui, mais il n'y en a pas énormément aujourd'hui de bandes libres. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas, moi, qu'ils fassent une année sabbatique et qu'ils reprennent derrière.
Ok, parce que c'est pas le même quotidien entre entraîner une équipe nationale et un club. Hein. Donc oui, c'est vrai
mais
que...
rien, en tout cas, ne l'effraie. Il a dit qu'il ne se fermait pas les portes. Il a dit que sélection ou club, en tout cas, il n'a pas voulu dire « je ne ferai pas ça » ou « je ferai ça ». Donc, il est ouvert à toute proposition. Didier Deschamps, il était aussi attendu sur certains dossiers parce qu'on sait qu'il y a des crispations au sein des Bleus. Arthur, il y a des problèmes de primes, il y a des problèmes de place et il y a aussi des problèmes de droit à l'image qui ont été révélés hier soir. Et donc, forcément, le sélectionneur a été interrogé là-dessus.
Oui, d'abord en commençant par les droits à l'image, c'est vrai que c'est la dernière information en date où très clairement certains bleus, dont Ryan Cherki et Kylian Mbappé, ont été et sont même crispés d'apparaître dans des pubs pour Paris Sportif et notamment avec le partenaire de la Fédération Française de Football Betclic, qui a eu le droit mardi à Clairefontaine à une séance photo, comme ça se fait très souvent, séance à laquelle ont participé plusieurs joueurs dont Ryan Cherki, Kylian Mbappé, Désiré Doué, Michael Olise ou encore Ousmane Dembélé. Et sauf que voilà, certains d'entre eux ont découvert que c'était justement pour ce site de Paris Sportif. Alors on le sait historiquement, hein, par exemple Kylian Mbappé s'est positionné contre ce type de publicité, notamment des Paris Sportifs. On se souvient qu'il y avait eu aussi quelques histoires avec des commentaires liés à son père qui avait été publié par un autre site de Paris Sportif. Et forcément que le sujet est venu très rapidement en conférence de presse, mais le sélectionneur a tenu à faire front et soutenir ses joueurs. On l'écoute.
Qui la faute ? Si ça revient sur la table, moi je suis pas là-dedans, bien évidemment. Après, il y a toujours eu des discussions pour la simple et bonne raison. Les fédérations, c'est pas les employeurs des joueurs, donc ils ont évidemment, surtout aujourd'hui, et ça veut dire le niveau des joueurs, des droits d'image. Alors il y a des chartes, comme on dit, peut avoir aussi des excès à travers les campagnes de publicité, marketing aujourd'hui. C'est souvent pour accrocher l'œil, mais pas toujours en rapport peut-être avec le sportif. Mais ça, je dis pas que c'est c'est le moment. Si tout se passe bien, tant mieux. Mais depuis 14 ans, j'en ai eu des... et avant aussi. Hein. J'oublie pas qu'on a dû se battre durement malgré l'opposition des Méjaquets. Ils ont des droits, donnent des sommes très importantes. Et il y a des contreparties, quoi. Après, vous trouvez le juste milieu, mais il peut avoir sans que ça devienne un problème insurmontable.
Voilà, ça c'était le premier dossier qui a été rapidement balayé par le sélectionneur Didier Deschamps. L'autre dossier, c'était notamment la déclaration après match, lors de la fin du dernier match face à la Côte d'Ivoire, de Ryan Cherki. On en parlait justement, lui qui avait été interrogé au micro du diffuseur M6, qui avait certes dit l'équipe de France n'est pas favorite pour la Coupe du Monde, mais l'équipe de France est prête à écraser tout le monde. Voilà, ça fait pas mal débat, et là aussi Didier Deschamps a tenu une nouvelle fois à imposer de nouveau un cadre et à remettre un peu plus ses déclarations dans son contexte.
Toujours, c'est valable pour moi, pour ceux qui viennent devant vous, à travers des paroles, il y a une interprétation qui peut être faite. Moi, je parle avec les joueurs, après, libre à vous d'écrire, de faire des débats sur ce que vous voulez, j'ai pas de problème avec ça. Mais entre ce qu'il a dit, comment ça peut être retranscrit, et lui, pourquoi il a dit ça, c'est dans le sens de motivation, une lecture qui peut être différente. Bon, ça, aujourd'hui, depuis un bon moment, c'est souvent le cas.
Voilà, Didier Deschamps qui vraiment n'a esquivé aucun sujet et évidemment d'autres cas encore à surveiller, d'autres dossiers à surveiller en équipe de France, notamment les primes, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, cela pourrait bouger dans les prochaines heures et également l'histoire des places attribuées aux joueurs et leurs familles. On rappelle la Fédération Française de Football qui a demandé un effort aux joueurs en passant de 2 places distribuées gratuitement et 6 autres réservées aux familles à la charge des joueurs.
Arthur, alors justement, par rapport à ça, Didier Deschamps, il aime que tout soit carré, que tout soit organisé. On rappelle qu'en 2014, il y avait eu des soucis avec les familles au Brésil. Est-ce qu'il est énervé par toutes ces choses qui peuvent parasiter les Bleus? Comment il vit ça? Et est-ce que aussi, par rapport à l'histoire des primes, il est sidéré qu'entre guillemets, ben, la FFF n'ait pas fait le job avant et que Philippe Diallo et ceux qui décident ne se soient pas mis d'accord avant?
Sidéré, non, c'est un mot peut-être un peu trop fort. La réalité des faits, c'est que d'abord il y a un contexte qui est extrêmement tendu à la Fédération française de football, notamment économiquement.
On découvre pas aujourd'hui qu'on a plus de sous à la Fédé quand même, Arthur.
Ce n'est pas nouveau, on est d'accord. Ce n'est pas nouveau, évidemment. Cela a été dévoilé notamment lors des derniers budgets qui ont été votés par le conseil d'administration de la Fédération française de football. Mais l'autre chose qui peut interroger, c'est tous ces dossiers sont encore en cours, alors que, on le rappelle, le grand départ, c'est pour mercredi. Certains qui ont été réglés très récemment, je pense notamment du côté de l'hôtel des joueurs, les chambres réservées aux familles, tout ce budget-là a été débloqué il y a seulement une semaine et demie. Forcément que c'est un peu interrogé. Et quand on regarde aussi l'historique, pour parler vraiment de ces primes-là, sur les dernières grosses compétitions, le sujet avait été réglé en amont, parfois bien en amont, et cette fois-ci, bah, force est de constater que voilà, ça a pris du retard, que la fédération s'y est pris un peu plus tard et que face à cela, les joueurs eux aussi peut-être jouent un peu la montre et profitent de cela pour qu'il y ait de véritables discussions et négociations.
Je pense que les joueurs sont en position de force en fait. Plus ils attendent, plus le match arrive et plus la fédération va commencer à stresser, parce que si les joueurs ne trouvent pas d'accord, là, évidemment ils n'iront pas jusqu'à... Et d'ailleurs ils l'ont dit très justement un peu plus tôt, qu'ils n'iraient pas jusqu'à faire grève ou quoi que ce soit. D'ailleurs c'est vraiment pas le moment de le faire, surtout par rapport à l'historique de l'équipe de France et les grèves, mais qui se réservent le droit justement derrière la compétition, en tout cas de parler dans la presse. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'en tout cas le temps joue en la faveur des joueurs. C'est très surprenant de la part de la fédération d'avoir laissé traîner un peu cette situation. Bon bah écoute, connaissant Didier Deschamps aussi, qui essaie de maximiser un maximum, ça se dit pas ça?
Non. Ah,
bon, maximiser en tout cas le terrain plutôt que l'extrasportif. C'est très surprenant de la part du sélectionneur, voilà, de se retrouver dans une situation comme celle-ci. D'autant qu'il a quand même été joueur et il sait de quoi il parle.
Kevin, Fabrice, j'aimerais avoir votre avis, parce que aussi il y a le côté un peu démago, populo, mais c'est vrai que globalement les gens ne peuvent pas entendre que des footballeurs demandent toujours plus pour des primes. Et donc est-ce que finalement ça tombe pas très mal d'avoir ce genre de débat avant une compétition? Parce que on sait très bien que si ça se passe mal pour les Bleus, il y aura toujours des petits discours très démago en disant ils étaient obsédés pour savoir combien ils allaient prendre à la fin, alors qu'ils sont déjà largement payés, etc., etc. C'est des débats qu'on pourrait éviter.
Non mais le souci c'est que tout à l'heure Arthur tu disais que, ou je sais pas si c'est toi Karine qui disais que les caisses sont vides.
Il y a des problèmes financiers à la CD, oui.
Oui, mais les caisses sont pas forcément vides. Après, c'est parce qu'il y a beaucoup de, en tout cas, redistribution. Je ne sais pas si on peut parler de ça, mais en tout cas, il y a quand même des sponsors et la Fédération française de foot.
Mais il doit faire beaucoup d'économies. Ça paraît fou, mais c'est la réalité.
En fait, il y a beaucoup d'argent, mais c'est comment il est utilisé.
Exactement.
Voilà, il a peut-être été mal utilisé avec l'hôtel des Bleus qui a coûté apparemment une fortune. Hein,
ça fait grincer un petit peu des dents.
Si ils sont éliminés à la demi-finale, c'est sûr que ça va faire parler.
Grincer des dents, on en parle beaucoup, oui. On le rappelle, hein, c'est cet hôtel Four Seasons qui est en plein centre-ville de Boston.
Qu'on ça a aussi, pu visiter, c'est un autre qui est choix. Très beau.
Surprenant, ouais, bah il peut être très beau, mais ça coûte un petit peu d'argent. On parlait des familles, bah là pareil, hein, il y avait un premier devis qui avait été fait par la Fédération française de football il y a quelques mois où c'était environ 600 euros la chambre pour les familles, bah c'est passé presque à 1000 euros au moment de la réservation. Donc voilà, c'est un coût et c'est le cas aussi pour les joueurs.
Qui paye les hôtels, l'hôtel pour les familles?
La Fédération française de football.
Mais l'idée c'est que les familles logent justement dans ce même hôtel. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont quasiment privatisé.
Oui, non, mais c'est la fédération qui paye ou c'est les joueurs qui payent?
Non, c'est la fédé qui paye.
C'est la fédé.
Ok.
Ah, donc, ouais, bah, surprenant, moi, j'ai jamais vu ça pour le coup. En règle générale, enfin, je sais que nous, en équipe nationale, quand on partait pendant plus de 10 jours, en règle générale, surtout en fin de saison, et qu'on devait faire venir les familles, ben, on avait des chambres à disposition, mais c'était nous, les joueurs, qui les payons, soit sur nos primes de match, soit à la fin du mois, en fonction de nos salaires.
Après, on va passer énormément de temps, les familles de joueurs. Je pense que ce sera à la fin. Si c'est comme d'habitude, ce sera après le troisième match, et peut-être pour les demi, les quarts.
Ils ont réservé tout un hôtel pour pas longtemps, alors.
Non, mais en tout cas, ils ont réservé tout un hôtel. Il y a des gens qui sont prêtes justement pour accueillir les familles.
Le débat paraît quand même complètement dingue. On parle justement d'un problème d'argent à la fédération et tu commences à privatiser un hôtel. Enfin, je veux dire, il y a peut-être autre chose à faire avec l'argent qui manque, soi-disant.
Mais c'est pour ça que c'est difficile de s'exprimer sans avoir exactement tous les tenants et les aboutissants de qu'est-ce qui a été réservé, pour qui, quand, comment, qui paye.
Arthur, il peut plus dire. L'hôtel, il a été entièrement privatisé. C'est le Four Seasons de Boston qui est en plein centre-ville.
Il y a un seul étage, pour tout vous dire, dans l'hôtel, il y a un seul étage qui n'est pas privatisé, c'est le dernier étage, puisque c'est des résidents à l'année. Voilà, et cet étage-là, il y a une quinzaine de gens, c'est des personnes.
Non, mais c'est important.
Non, il n'est pas immense.
De mémoire, c'est 4 ou 5.
Oui, ah, voilà. C'est 5. Donc, ok, 4 ou 5, c'est pas comme un hôtel américain.
Et le cinquième est donc réservé aux résidents.
Non, c'est pas immense.
Est-ce que les familles vont participer sur les nuitées qu'elles vont faire en fait aux États-Unis? Est-ce qu'elles vont participer? À quel pourcentage ou pas du tout? C'est une question à laquelle on n'a pas la réponse.
Ce que dit Fabrice, c'est très important parce que ça dépend quand même. On a tous fait des déplacements, alors pas en équipe de France et pas peut-être pour une Coupe du Monde à New York ou aux États-Unis, que ce soit New York, Boston, c'est fait partie des villes au monde où l'immobilier est le plus élevé. Donc forcément, c'est coûteux. Après, concernant les primes, etc., comme disait Karine, le problème, c'est que c'est pas bon, quoi, comme je vais pas parler de polémique, mais c'est même pas bon comme discussion avant une compétition. Parce que c'est toujours des effets boomerang où ça peut revenir dans la tête soit des joueurs, soit de la fédération.
Bien sûr.
Forcément, si ça se passe mal, ce qui est quand même l'idéal. Après, il faut dire aussi pour nos auditeurs, même si nos auditeurs sont quand même des aficionados du football, c'est que beaucoup de joueurs reversent leurs primes à des associations. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas de tous les joueurs, mais je sais que les plus gros joueurs reversent souvent les primes.
La grande majorité. 22, c'était la très grande majorité. Oui.
Certains même à leur club formateur aussi, voilà. Ils font un geste.
Quand c'est comme ça, c'est vrai que bon, bah, tu peux demander les primes et puis toi les reverser à ton club et ça. C'est top pour le football amateur ou pour telle ou telle association. Mais c'est vrai que tout ce genre de discussion avant une compétition, c'est compliqué. Il faut les régler en amont le plus rapidement possible. Après,
messieurs, on va continuer à en parler puisqu'on doit faire une courte pause. Évidemment, Arthur, tu restes avec nous ensemble jusqu'à minuit. L'Afterfoot continue. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'Afterfoot.
Karine Galli. 22h20, vous êtes sur RMC en direct du studio Roland Courbis. On est ensemble avec Maxime Chano, Kevin Diaz et Fabrice Hawkins. Vous savez qu'il y a des matchs amicaux en vue de cette Coupe du Monde qui débute jeudi. Et le Maroc affronte la Norvège qui est dans le groupe de la France. Le Maroc qui mène. Camille Borin, bonsoir.
Salut Karine, salut à tous. Oui, toujours 1-0 pour le Maroc après le but de Brahim Diaz à la 7e minute de jeu. On voit, je dois vous l'avouer, des Norvégiens très frustrés, très nerveux. Ils ont eu plusieurs occasions, mais ils n'ont rien réussi à concrétiser. Puis on vient de voir un super barré de Bounou qui a contré une frappe d'Aland. Donc voilà, on joue depuis 50 minutes et 1-0 pour le Maroc face à la Norvège. Et je dois quand même vous dire que Ezal Zouli est sorti sur blessure. Il semble être touché au genou droit. Donc voilà, mauvaise nouvelle pour les Lions de la Atlas et Zalzouli. pourraient peut-être ne pas disputer la Coupe du Monde. On verra, mais en tout cas, ils n'avaient pas tous l'air très rassurés. Voilà, 1-0 pour le Maroc face à la Norvège, 51 minutes de jeu.
Et on fera un point sur le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde à 23h. Est-ce que le Maroc peut faire mieux qu'en 2022? On est toujours avec Arthur Perrault en direct de Lille. Demain, c'est le dernier match amical avant de partir aux États-Unis pour les Bleus. Ça sera face à l'Irlande du Nord. Nous avons parlé des petites problématiques qui polluent un petit peu la vie de Didier Deschamps et des joueurs. Il y a évidemment un match demain. Est-ce qu'on a une tendance? Est-ce qu'on va se rapprocher de ce que nous verrons face aux Sénégalais lors du premier match? Arthur, dis-nous tout.
Oui, et ça a été indiqué assez rapidement ces derniers jours par le sélectionneur hein, que ce serait l'équipe type qui serait alignée sur ce dernier match de préparation et celle qui se rapprocherait donc le plus de celle alignée face au Sénégal le 16 juin prochain. Et c'est ce qui a vraiment été travaillé lors de la dernière séance hein, de veille de match ce soir au stade Pierre-Mauroy avec donc Mike Maignan, indéboulonnable dans la cage de l'équipe de France qui devrait honorer sa 40e sélection. En défense, William Saliba, et ça c'est la première bonne nouvelle, s'est totalement débarrassé de sa blessure au dos. Le joueur d'Arsenal pourrait débuter avec Jules Koundé, Dayo Upamecano et Théo Hernandez, c'est peut-être là le plus important, on va y revenir. Théo Hernandez préféré une nouvelle fois à Lucas Digne. On l'avait vu en difficulté lors du dernier match et la défaite de 1 contre la Côte d'Ivoire, le binôme Adrien Rabiot-Aurélien Tchouaméni devrait être reconduit. Mais la meilleure nouvelle pour Didier Deschamps, c'est le retour à 100% des joueurs parisiens fraîchement sacrés double champion d'Europe. Le sélectionneur l'a annoncé dès ce matin, le ballon d'or Ousmane Dembélé sera titulaire à Lille. Il devrait être accompagné de Michael Olise, de Désiré Doué et de Kylian Mbappé dans cette attaque, où il faudra évidemment surveiller le positionnement des uns et des autres. On sait que ça peut permuter énormément, notamment devant entre Ousmane Dembélé et Michael Olise.
Alors, première chose déjà concernant le poste derrière gauche, ça veut dire quoi? Ça y est, on sait qui est a priori le titulaire à ce poste et ça sera donc Théo Hernandez.
Il y a une petite préférence, je pense qu'on peut dire à l'heure actuelle. Après, à voir aussi en fonction de demain comment ça se passe pour lui. On le rappelle, hein, il avait été titulaire lors du dernier match face à la Côte d'Ivoire à Nantes. Mais voilà, il y a une petite préférence.
Est-ce que c'est définitivement acté? Je peux le dire, Arthur, sauf catastrophe et si ça se passe vraiment mal pour lui, s'il fait un bon match demain, il est aligné, c'est lui qui va démarrer. Dans l'esprit de Didier Deschamps, en tout cas, avant ces matchs amicaux, la défense, c'était évidemment Mac Meillan dans les buts, mais les quatre, c'était Théo Hernandez, Jules Koundé, Dayo Upamecano et William Saliba qui était blessé, donc il avait une petite gêne, il a mis Ibrahima Konaté. Mais si jamais tout le monde
il y avait 5-5 hein, dans les titularisations lors des 10 derniers matchs.
Ça surprend personne de voir Théo Hernandez quand il commence à gauche.
Après, c'est les choix. Hein.
Ouais. Kevin?
Non, bah après, je pense que ça fait déjà un moment qu'on a bien compris que Didier Deschamps va faire fi de toute polémique possible et va titulariser Théo Hernandez, hein, que ce soit sportif ou extra-sportif. Aujourd'hui, c'est un joueur qui joue en équipe de France depuis un moment maintenant qui semble être un titulaire indiscutable. Par contre, moi, j'aime bien quand même cette équipe. Hein. Pour moi, c'est la meilleure équipe possible.
Mais juste sur Théo Hernandez, je pense qu'il faudra plus de fiabilité, en tout cas dans une équipe qui est très offensive avec ses quatre joueurs à vocation offensive, justement. Ça. Je pense qu'il va falloir vraiment qu'il soit très costaud derrière. Parce que s'il monte et qu'il n'est pas toujours couvert, ça risque d'être compliqué dans le couloir. Moi, c'est vraiment là-dessus que je l'attends.
Moi, c'est ça, le grand questionnement que j'ai, c'est aujourd'hui le déséquilibre qui peut être créé à gauche en fonction de quel joueur sera positionné offensive coach du côté de Didier Deschamps. Mais c'est vrai qu'avec un Théo Hernandez qui défensivement est quand même très moyen, on l'a vu sur le dernier match.
Défensivement, c'est pas les Arasu non plus.
Non, c'est vrai que c'est entre la peste et le choléra, t'as un peu de mal à savoir lequel est le meilleur actuellement. Mais c'est vrai que sur la dynamique, Lucas Digne, par rapport à la fin de saison Aston Villa, ce qui nous a montré sur la deuxième mi-temps, c'était aussi très moyen contre la Côte d'Ivoire. Finalement, les deux buts viennent de son côté. Mais c'est vrai que moi, je suis assez perplexe par rapport aux deux joueurs qu'on avait. Alors, on va pas revenir sur la polémique de la liste, mais plus je vois les jours avancer et plus on se rapproche de la compétition, et plus je me dis que la non-sélection de Mathieu Hudol,
prend plus
d'ampleur. Ouais, exactement.
C'est vrai que sur le rassemblement du mois de mars, j'aurais aimé aussi voir Mathieu Hudol. Maintenant,
au moins le tester. Bon, maintenant, c'est fait, tu l'as dit.
On rappelle donc, a priori,
c'est
ça
fait,
sera
on
un.
On n'oubliera pas qu'il n'est pas là.
Ça fonctionne. Il le répétera à chaque fois que ça passera à côté, évidemment, d'Hernandez ou de Digne. Il dira Mathieu Hudol aurait pu apporter. 4-2-3-1, c'est logique. En plus, l'Irlande du Nord, c'est une équipe faible. On rappelle qu'elle n'est pas qualifiée pour ce mondial. Mais nous allons parler de la suite. La France, évidemment, aura peut-être une adversité qui va grandir après certains matchs. Et c'est l'avis de Kevin Diaz.
Humblement, j'avais pas son niveau ni son talent, mais moi j'avais le syndrome Griezmann.
Kevin. Kevin, ton avis sur cette équipe de France qui pourrait évoluer avec des matchs qui seront forcément plus durs. Enfin, en tout cas, on espère qu'on aura des adversaires de très grande qualité. Ça voudrait dire que les Bleus iront loin dans ce mondial.
Ouais, moi je pense que plus l'équipe de France va avancer et je pense que Didier Deschamps fera, mais je pense que je le ferai aussi d'ailleurs, le choix de repasser dans un 4-3-3. Même si là on vient d'entendre la composition donnée par Arthur avec un Désiré Doué qui devrait être un peu milieu offensif, si je dis pas de bêtises, Fabrice, c'est bien
à
ça.
À gauche et milieu offensif, c'est un peu l'interrogation de cette composition d'équipe, c'est de savoir est-ce que ce sera Michael Olise ou Ousmane Dembélé au départ, même si on sait qu'ils vont énormément permuter.
Ok. En tout cas, moi, je pense que tu vas jouer avec un troisième milieu de terrain qui peut être Désiré Doué, vraiment en tant que milieu de terrain. Alors, offensif, hein, c'est pas un numéro 6, mais un milieu de terrain, c'est-à-dire un vrai 4-3-3, c'est-à-dire...
En tant que numéro 8, numéro...
Voilà, en tant que, ouais, numéro 8. Ou même un Zaïre Emery, qui, moi, je l'ai trouvé monstrueux sur les derniers mois avec le Paris Saint-Germain, qui, pour moi, peut avoir une chance petit à petit de grappiller du temps de jeu. Ah, ça peut être un Manu Koné, ouais, avec un Rabiot un peu plus haut qui se projette, mais je pense que sur les gros matchs, Didier Deschamps devra revenir à un 4-3-3. Attention, un 4-3-3, c'est pas un système défensif, hein. Toutes les équipes au monde qui ont été les plus offensives, que ce soit l'Ajax ou le Barça ou Manchester City,
tout dépend le profil toujours, des joueurs.
On joue toujours en 4-3-3. Le Paris Saint-Germain est une équipe ultra offensive, ils jouent en 4-3-3.
Après, c'est le 4-3-3 de Didier Deschamps, donc en règle générale.
Oui, mais si tu mets le 4-3-3 que je viens de te dire, c'est-à-dire avec Tchouaméni, Manu Koné et Rabiot, ça va. Oui, t'as trois joueurs qui peuvent quand même, qui ont des très très bonnes qualités techniques. Si tu mets un Zaïre Emery, si tu mets même un Désiré Doué, même si c'est en mode milieu de terrain, moi je préfère aujourd'hui le poste de numéro 10. C'est très très compliqué de défendre quand t'es un numéro 10. C'est très très compliqué d'attaquer, de défendre, même pour un Dembélé, même pour un Olise, encore moins pour un Cherki. Donc je veux dire que c'est bien pour avoir le ballon, mais sans le ballon, quand le niveau va s'élever, même contre, on regarde là la Norvège, même contre la Norvège, même et bien sûr contre le Sénégal, attention, parce que l'équipe de France peut souffrir au milieu de terrain, et ils ont d'ailleurs souffert contre la Côte d'Ivoire.
Arthur, aujourd'hui justement, il y avait un milieu de terrain en conférence de presse, c'est Adrien Rabiot qui devrait être titulaire dans cette équipe de France lorsque les matchs vont évidemment être un petit peu plus relevés. Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir du joueur du Milan ou pas du tout ?
Bon, toujours aussi franc, hein, lui qui est très à l'aise dans sa communication face aux médias, toujours voilà, très ambitieux, calme aussi à la fois, où il a dit que voilà, pour lui l'ambiance qui règne autour du groupe est pleine d'humilité et qu'il garde une pleine confiance en Didier Deschamps pour cette dernière, pour le sélectionneur des Bleus. Voilà, rien de particulier, mais vraiment
une bonne déclaration aussi, sur Cherki.
Il le défend très clairement une nouvelle fois, où il dit que pour lui ses déclarations, encore une fois au micro du diffuseur M6, n'étaient pas du tout déplacées, qu'il n'a pas compris la polémique s'il y en avait une, et que voilà, il y avait rien d'alarmant dans tout cela.
Merci beaucoup Arthur, belle soirée à toi, et donc demain,
salut Arthur.
On rappelle, salut Arthur. Sur RMC, vous vivrez le dernier match amical entre la France et l'Irlande du Nord en direct de Lille. Dans quelques instants, évidemment, on continue de parler de l'équipe de France. On est ensemble jusqu'à minuit. L'afterfoot continue sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 22h31, vous êtes sur RMC en direct du studio Roland Courbis. On est ensemble jusqu'à minuit avec Maxime Chanot, avec Fabrice Hawkins, avec Kevin Diaz. Vous le savez, la Coupe du Monde arrive sur RMC. Coup d'envoi ce jeudi du 11 juin au 19 juillet. RMC est radio officielle du Mondial. Et si vous souhaitez découvrir les 48 équipes qualifiées, vous avez des podcasts spéciaux sur toutes les nations engagées pour ce Mondial. Rendez-vous sur YouTube. On va continuer de parler de l'équipe de France. Demain, c'est le dernier rendez-vous avant le début de la Coupe du Monde. Le premier match pour les Bleus, ça sera le 16 face au Sénégal. Il y a évidemment des joueurs qui sont en train de grandir, qui ont changé de statut. Et ça va être l'avis de Fabrice Hawkins. Fabrice, ce faucon magnifique m'a percé le tympan.
Ça y est, je suis là.
Tu es là, effectivement. Tu es prêt à manger ta proie, comme certains joueurs de l'équipe de France qui veulent évidemment grandir au sein de cette équipe.
Ouais, mon avis, il est sur Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, parce qu'il y a une petite musique qu'on entend, vraiment sourde, hein, mais qu'on entend de plus en plus monter, parce que Ousmane Dembélé, il a fait une saison exceptionnelle, parce qu'il a un nouveau statut, on l'a vu sur la photo officielle, maintenant il est au premier rang à côté de Deschamps et à côté de Kylian Mbappé. Et cette petite musique dirait que Ousmane Dembélé est là pour prendre le leadership et donc à la place de Kylian Mbappé. Moi je m'inscris totalement en faux. Je pense que aujourd'hui Ousmane Dembélé est un joueur qui est là effectivement, la Coupe du Monde elle est très importante pour lui, mais c'est la Coupe du Monde de la révélation et il est pas là pour prendre la place, prendre le leadership de Kylian Mbappé. De la même manière que à mon sens, pour que ça fonctionne bien sur cette Coupe du Monde, il faut vraiment que les deux marchent main dans la main, ils s'entendent bien en dehors, ils s'entendent bien aussi sur le terrain. Alors oui, effectivement la proximité qu'ils ont fait que Ousmane Dembélé peut peut-être lui dire certaines choses que d'autres n'oseront pas lui dire, mais ça doit être pour le bien de l'équipe. Et pour moi vraiment, cette équipe de France va aller le plus loin possible si ces deux joueurs-là sont à 100%, d'autant plus que cette Coupe du Monde, pour des raisons différentes, est très importante pour Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.
Donc pour toi, il faut absolument pas effectivement les opposer, parce que il y a des gens qui disent ça sera soit Mbappé qui va guider les Bleus comme ça avait été le cas notamment en 2018, sauf qu'il y avait aussi Griezmann, il n'était pas seul bien évidemment, soit c'est Ousmane Dembélé qui va faire une grande compétition en ayant aussi des prestations XXL, ce qu'il n'a jamais eu encore en équipe de France.
Exactement. Moi, pour moi, les deux peuvent être performants. Et on entend aussi parfois que Ousmane Dembélé pourrait ou devrait prendre la place de Kylian Mbappé en numéro 9. Et Kylian Mbappé, ou certains même expliquent que ce serait pas mal de le voir sur le banc de touche ou alors sur le côté gauche. Non, c'est des choses qu'on entend. Hein.
Moi,
je ne pense pas du tout. Aujourd'hui, cette équipe de France-là, elle sera très performante. C'est Kylian Mbappé qui l'a toujours été. Il a toujours été performant avec du monde avec l'équipe de France. S'il réussit à avoir les mêmes performance qu'en 2018, qu'en 2022, l'équipe de France ne s'en portera que mieux. Et par contre, Ousmane Dembélé doit être sur la lignée de ce qu'il fait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant, avec le Paris Saint-Germain. Et si lui aussi est à ce niveau-là, je pense que ce sera magnifique pour tout le monde.
Je comprends Fabrice, mais dans un rôle qui est différent au Paris Saint-Germain. Tu l'as très justement dit, c'est vraiment le leader de l'attaque du club parisien. Là, c'est un peu différent en équipe de France. T'as un Kylian Mbappé qui est performant, qui est installé, qui a le brassard de capitaine. Alors quand j'entends, et que tu dis très justement, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare d'avoir deux joueurs au même niveau. Je te parle uniquement en point de vue qualitatif, mais aussi par rapport au performance. En règle générale, dans des matchs de foot et dans une vraie compétition, tu as toujours un joueur qui prend le lead. Ça, c'est naturel et tu peux le voir historiquement sur toutes les grandes nations, c'est ce qui s'est passé. On a souvent dit que Dembélé était un peu le lieutenant de Mbappé. C'est vrai que dans les replis défensifs, moi je l'ai vu d'ailleurs au mois de mars, en règle générale, je l'ai trouvé assez performant et on connaît un petit peu le statut de Dembélé dans cette équipe de France. On l'a dit, où Mbappé était quand même au-dessus de lui. Maintenant, je me pose quand même la question et je suis d'accord, il faut pas rentrer dans une polémique qui n'existe pas pour l'instant. Les deux s'entendent très très bien à l'extérieur du terrain. Mais attention, attention, si Dembélé devait prendre le lead parce qu'il devait avoir des meilleures performances que Kylian Mbappé, forcément ce sujet reviendrait un petit peu sur la table. Il y a le sujet en effet du positionnement aussi. C'est vrai que beaucoup prêchent pour avoir un Dembélé en numéro 9. Ça voudrait dire qu'Mbappé devrait décaler sur le côté gauche. Moi, j'ai parlé d'un problème d'ego, d'un déclassement. On m'a regardé avec des grands yeux en me disant non, c'est pas parce que tu changes de poste que tu es déclassé. Mais si, quand t'es numéro 9, que t'as prêché pendant longtemps pour essayer d'être numéro 9 et qu'on te met à gauche, mais forcément, il y a un petit peu aussi une histoire d'ego qui rentre en compte.
Ça dit des choses de le régler. On va le voir dès demain. Est-ce qu'il peut mettre Ousmane Dembélé? On le sait parce qu'il le dit maintenant à longueur d'interview. Il ne s'en cache pas. Il aimerait jouer dans une position un petit peu plus axiale en équipe de France, hein, sans s'en mettre la pression sur Didier Deschamps. Mais c'est vrai que au détour de petites phrases comme ça, pleines d'humour, il l'a déjà exprimé ce souhait-là. S'il joue derrière Mbappé, en tout cas dans une position plus axiale, ça lui permettra d'avoir un rôle qui ressemble un petit peu plus à ce qu'il a déjà au Paris Saint-Germain.
Non, je suis d'accord avec toi. J'attends de voir après, tu sais, ce qui va nous donner aussi les réponses, c'est les performances et surtout les résultats de l'équipe de France. Si la France gagne ses matchs, la France joue bien, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Après, si on commence à voir quelques déchets, forcément les crispations vont arriver, les débats vont être relancés. Voilà, j'ai bon espoir, comme tu l'as dit, que Didier Deschamps, avec son management, puisse arriver à gérer ça. Mais attention, attention quand même, parce qu'on a quand même des joueurs exceptionnels avec des égos quand même assez importants. Et on sait que dans une compétition comme la Coupe du Monde, le moindre petit détail peut vraiment jouer des tours à cette équipe de France. Donc voilà, j'ai quand même bon espoir de me dire que les joueurs sont intelligents pour mettre ça de côté.
Je pense que c'est surtout la Coupe du Monde pour moi de la révélation. Il faut que certains aient une révélation comme l'a eu Ousmane Dembélé avec sa rencontre avec le prophète Luis Enrique. Aujourd'hui, si Kylian Mbappé veut faire une grande deuxième partie de carrière. Comme tu l'as dit, c'est très juste. Je suis vraiment d'accord avec ça. Pour moi, ça reste un tournant dans sa carrière. Un tournant dans sa carrière parce que aujourd'hui, bah, au Real, j'étais à Madrid ce week-end. Alors oui, il y a beaucoup de maillots de Kylian Mbappé. Oui, ça reste un joueur qu'ils attendent encore beaucoup. Mais il sait que il va être attendu au tournant. Et par contre, en équipe de France, et ça aussi, tu l'as dit, et c'est très juste, il a toujours répondu présent en termes de statistiques. Mais la révélation dans le foot, que ce soit pour les grands ou pour les moins grands, surtout pour les moins grands d'ailleurs, qui nous écoutent ou qui nous regardent, notamment sur les réseaux sociaux, le football, c'est pas qu'avec le ballon. Et ça, s'il n'y a pas un moment où il a le déclic, bah ça va être compliqué. Alors j'entends, oui, mais bon, aujourd'hui, il y a les joueurs frissons, et les joueurs frissons, et c'est avec le ballon qu'on a envie de les regarder, etc. Mais pourquoi, moi, je prends en exemple Ousmane Dembélé? Parce que qui aurait cru que Ousmane Dembélé devienne ce vrai général? Ah oui, bah, il a toujours été talentueux, Ousmane Dembélé. À Rennes, on voyait déjà que c'était un phénomène. À Dortmund, c'était un phénomène. Il a toujours été un phénomène. Mais aujourd'hui, c'est un vrai phénomène avec, mais surtout sans le ballon. Moi, la finale à Munich, je m'en rappellerai toute ma vie. Et c'est pas pour les buts qu'il aurait pu mettre avant ou la frappe à moitié ratée à Arsenal qui fait poteau rentrant. C'est pas ça. C'est le mec en mode, écoute-moi bien. Écoutez-moi bien les adversaires là. Je vais pas vous laisser respirer une minute.
Il avait traumatisé Yann Sommer d'ailleurs.
C'est exactement, je cherchais le nom. Yann Sommer. Mais Yann Sommer, le gardien de l'Inter, il a fait des cauchemars de Kylian Mbappé qui était en mode écoute-moi bien. Dès que la balle elle va quitter le pied du gars, je vais te sauter dessus. Et en fait, si les gens et si Kylian Mbappé ne comprend pas que aujourd'hui,
il sera obligé. Et il
Le vrai leader de l'équipe pour ça. Ça doit être Ousmane Dembélé. Je parle pas de marquer des buts, de faire des diffs. Ça, Mbappé sera toujours meilleur. Mais je te parle d'être le vrai leader.
Mais il a jamais été le leader des bleus.
Un leader, avant d'être un buteur, avant d'être un joueur technique, un joueur frisson, un joueur ce que vous voulez, c'est un gars que tu as envie de suivre.
Mais tu as totalement
raison. Et tu as envie de suivre les gens qui te font gagner les matchs avec et sans.
Mais c'est aussi pour ça qu'ils sont complémentaires. C'est aussi pour ça qu'ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est leader, effectivement, et qui va apporter ça. Et Kylian Mbappé, il doit être dans ce qu'il sait faire. Et il l'a commencé à le montrer sur les derniers rassemblements.
Qu'il peut le faire,
il fait un petit peu plus d'efforts, mais il va falloir l'accentuer. Mais je suis totalement d'accord.
Messieurs, on accueille Sofiane, supporter lyonnais, qui veut réagir à ce débat sur les Bleus. Il est au 32-16 avec nous sur RMC. Bonsoir, Sofiane.
Bonsoir, Karine.
Salut, Sofiane.
Oui. Effectivement du capitaine qui lui a déjà réussi en équipe de France, Ousmane Dembélé qui a pris une autre dimension au club et qui veut donc effectivement concrétiser en bleu. Toi, tu nous en mets un troisième dans la liste.
Pour moi, si on veut gagner la Coupe du Monde, ça passe par Rayan Cherki. C'est lui qui a les clés.
Il y a un gros lobby Cherki. Hein.
Oui, bah, bah, on rappelle qu'il est supporter de l'OL, Sofiane, donc je pense qu'il y a quand même une petite cause à effet. Oui, bon. C'est ton petit coup de cœur, on comprend.
Vous avez vu la première mi-temps contre la Côte d'Ivoire, tout le monde lui donnait le ballon. Ça veut dire que les gens, le ballon d'or, Kylian, tout le monde, Olivier donnait le ballon à Cherki pour qu'il organise le jeu. Et je pense que si Didier Deschamps se passe de Cherki au début, après il va finir par le mettre titulaire parce que c'est pour débloquer les situations, il n'y a que lui, je pense. Après, je suis pas chauvin, je suis pas lyonnais supporter pro, mais.
Mais t'es un peu chauvin quand même, Sofiane. Tu as le droit d'être chauvin. Mais Cherki, c'est pas la solution à tout. Ça peut être une solution, mais dans tes propos, tu nous dis que c'est la solution à tout.
Moi, ce débat sur Cherki, je le comprends pas, messieurs.
Cherki contre le Sénégal, il va pas le mettre.
Cherki, il a brillé parce que Ousmane Dembélé n'était pas là, parce que Désiré Doué n'était pas là, et que forcément, donc Didier Deschamps l'avait aligné. Ça s'est aussi très bien passé parce que la Côte d'Ivoire a décidé de laisser le ballon à l'équipe de France, avait aussi installé un bloc bas, ce qui permettait à Cherki d'être performant et surtout avec ses c'est-à-dire entre les lignes. Mais enfin, ça va être un match quand même complètement différent contre le Sénégal, même si on sait que la Côte d'Ivoire et le Sénégal peuvent être plus ou moins semblables. Ça va être un match différent aussi contre l'Irak, ça va être un match différent aussi contre la Norvège. Alors, de faire rentrer Cherki dans les 20-30 dernières minutes, pour l'instant, je suis d'accord. Aujourd'hui, il y a quand même très peu de certitude avec un joueur qui a, attention, hein, messieurs, hein, qui est exceptionnel, qui a énormément de qualité, qui a fait une saison plus que correcte à Manchester City. On va pas revenir sur ses qualités. Et je pense que c'est clairement l'avenir de l'équipe de France. Mais je pense que prendre ce pari de mettre Cherki titulaire dans une compétition qui est
qui est si relevé et surtout qui est si rapide hein, aujourd'hui. Hein. Il suffit de louper le premier ou le deuxième match, t'es dehors. Hein. Donc en fait, connaissant Didier Deschamps.
Justement, avec le nombre d'équipes qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu plus long d'habitude.
Oui, évidemment, c'est les trois meilleurs huitièmes. Enfin, je veux dire, est-ce que tu peux prendre le risque, alors que t'as quand même une compétition qui va commencer, et je le répète, qui est quand même très relevée, de mettre quelqu'un qui n'a pas forcément de certitude en équipe de France, juste parce qu'il a été très bon contre la Côte d'Ivoire. Ça ne remet pas en cause, encore une fois, ses qualités. De là, de se passer d'un autre joueur pour pouvoir mettre Cherki, moi, je suis pas convaincu sur ce débat-là, messieurs.
De toute façon, là, juste le mot de la fin, Fabrice, on est d'accord. Cherki, là, il débute pas comme titulaire, a priori, face au Sénégal.
Non, il débutera pas comme titulaire, à mon sens. Après, il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi. Moi, je souscris à beaucoup de choses, de ce que vient de dire Max. C'est-à-dire qu'il part pas en tant que titulaire. Il y a des gens qui sont devant lui. Il y a Olise, il y a Dembélé, il y a sans doute Doué ou Barcola d'ailleurs, qui est très apprécié par le sélectionneur. Mais il faut quand même dire quelque chose. Et pour le coup, moi, c'est ce que j'ai entendu là sur les derniers jours, et je m'y attendais pas forcément. C'est que le meilleur à l'entraînement, c'est Cherki. Donc, d'accord. Les performances face à la Côte d'Ivoire, plus ce qui donne à voir à l'entraînement. Apparemment, il est très impressionnant depuis 2-3 jours.
Il joue en sa faveur.
Je pense. Ça ne veut pas dire qu'il va être titulaire contre le Sénégal, mais ça veut dire que s'il fait une très bonne rentrée et qu'il y a des circonstances favorables pendant la compétition, on a déjà vu Didier Deschamps changer son 11 pendant une compétition.
Et puis on sait que Dembélé était titulaire en 2018 au début, et après voilà.
On sait que l'équipe qui débute la compétition est rarement celle qui termine d'ailleurs. Mais c'est sûr qu'en tout cas, il est en train de toquer à la porte là, de cette équipe de France en se disant voilà, je suis là.
Pas titulaire, mais
si jamais Deschamps a besoin de moi, je pense que j'ai montré que j'ai les qualités pour.
Sofiane, merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. On continue évidemment de parler de l'équipe de France, mais aussi des autres nations, et on sera à Tijuana, direction le Mexique dans quelques minutes. Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial, il va nous faire un point sur la situation de l'Iran. Vous le savez, l'Iran qui est en guerre et qui va quand même jouer la Coupe du Monde, donc c'est compliqué, notamment avec les États-Unis. Vous saurez tout dans quelques instants sur RMC. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 22h45, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit dans l'afterfoot avec Kevin Diaz, avec Maxime Chano, avec Fabrice Hawkins. Il y a, vous le savez, des matchs pour préparer à ce Mondial 2026 qui commence lundi. Le Maroc est opposé à la Norvège. Camille Borin, les Norvégiens ont égalisé.
Oui, ils ont égalisé à la 75e minute de jeu. But du capitaine Martin Ødegaard sur une passe D d'Oscar Bob. Ça va leur faire du bien parce qu'on avait vu des Norvégiens très prometteurs face à la Suède pour leur premier match de prépa. Les Norvégiens, ils avaient gagné 3-1. Mais là, ils étaient plutôt méconnaissables ce soir. Ils étaient très frustrés, très nerveux. Donc là, on espère que cette égalisation va leur permettre de se relancer. Pour l'instant, il y a donc un partout entre le Maroc et la Norvège. On est à la 76e minute de jeu.
Merci beaucoup. On rappelle la Norvège, évidemment, adversaire des Bleus dans le groupe pour la Coupe du Monde. Et on fera un point sur le Maroc, demi-finaliste de la dernière compétition à 23h. On va prendre la direction de Tijuana. Nous sommes au Mexique avec Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial. Bonsoir Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Nico, raconte-nous tout. Donc tu es à Tijuana, c'est une ville qui se trouve au nord-ouest du Mexique. Pourquoi ? Parce que l'Iran donc a dû faire son camp de base au Mexique, alors qu'à la base ils auraient voulu être aux États-Unis, mais évidemment vu la situation politique, ça n'a pas été possible. Donc l'Iran a été contraint de déplacer son camp de base.
Oui, on a atterri hier du côté de Los Angeles, puis on a pris la voiture et on est descendu au poste frontière entre San Diego et Tijuana pour passer cette frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et on s'est donc retrouvé ici au Mexique, lieu de vie de l'équipe iranienne pendant les trois prochaines semaines au minimum pour cette Coupe du Monde 2026. Donc voilà, l'Iran qui est arrivé il y a quelques heures, hein, ce matin, il est, pour tout vous dire, il est 13h47 ici en heure locale, l'Iran qui est arrivé ce matin. Ils sont actuellement en train de dormir, et donc l'Iran qui a installé son camp de base ici à Tijuana, avec un centre d'entraînement à quelques mètres de l'hôtel qui leur est réservé au stade Caliente de Tijuana. C'est le club d'habitude qui l'occupe, le club local qui l'occupe d'habitude. Et donc on est ici à Tijuana sous un soleil magnifique et sous un très gros dispositif de sécurité. Le quartier est complètement bouclé pour surveiller cette équipe iranienne qui est donc basée ici et qui va à chaque fois devoir aller aux États-Unis pour jouer ses matchs. Deux matchs à Los Angeles et un match du côté de Seattle.
Alors comment ça va se passer justement? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. On disait qu'ils ne pourraient pas rester aux États-Unis. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils seront sur place le jour du match, ou est-ce qu'ils pourront venir aux États-Unis à J-1 comme ça se fait très souvent?
Voilà, la FIFA en temps normal convoque les équipes à J-1, J-2 dans certains cas, pour surtout répondre aux rendez-vous médiatiques. Ces dernières heures, il y a eu un son de cloche qui est apparu du côté du gouvernement américain, qui a laissé fuiter que l'Iran ne pourrait pas se rendre à J-1 ou à J-2 sur le sol américain. Il serait obligé de se rendre le jour du match, le matin du match, sur le sol américain et de repartir directement après le match en avion du côté de Tijuana. On a pu discuter avec certains membres de la délégation iranienne de foot ces dernières heures et eux n'ont pas compris ce message. Eux, ils disent qu'ils ont des visas à multiples entrées et qu'ils ont le droit de se rendre à J-1, J-2 du côté de Los Angeles ou de Seattle. Donc on va voir le 14 et 15 juin prochain, c'est-à-dire dans un peu moins d'une semaine, on va voir si l'Iran arrive à J-1 ou J-2, parce que ça sera l'image forte de ce début de compétition lorsque les Iraniens vont mettre un pied sur le sol américain. Tous les médias du monde entier sont ici à Tijuana, des Brésiliens, des Japonais, des Mexicains bien évidemment, pour suivre cette équipe iranienne. Et donc on verra si dans les prochains jours, l'Iran arrive à J-1 ou J-2, ou si elle arrive le jour du match, et ça va vraiment poser un problème d'équité par rapport aux autres nations.
Oui, parce que c'est important, les veilles de match, vous l'avez dit, quand tu t'entraînes sur le terrain de match, voilà, ça te permet aussi de prendre un petit peu connaissance du terrain, connaissance un petit peu des circonstances dans lesquelles tu vas évoluer le jour d'après. Donc ouais, ça peut être très très surprenant de voir une grande compétition comme celle-ci, avec une équipe qui arrive le jour de match. Ouais, à voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que ça ne les met pas dans les meilleures dispositions pour pouvoir commencer cette compétition.
Nico, on rappelle que le premier match de l'Iran est prévu le 16 juin face à la Nouvelle-Zélande. Jusque-là, quel est leur programme? Est-ce que tu sais ou est-ce que tout est secret? Parce que tu nous as expliqué qu'il y a évidemment un cordon de sécurité XXL. On parle de 300 agents, donc c'est des dispositifs exceptionnels qui sont mis en place.
Non, on arrive quand même à savoir leur programme. Par exemple, ils ont atterri ce matin, là, ils sont un peu en mode récupération. Ils étaient du côté de la piscine de l'hôtel Marriott de Tijuana tout à l'heure pour un peu récupérer tous ensemble tout le groupe iranien. Et puis normalement, dans les prochaines heures, ils vont venir faire une première séance du côté du Stade Caliente, une première séance avec ballon. Et ça va être comme ça tout au long de la semaine. Après, tout dépendra à quel moment ils vont prendre l'avion pour se rendre du côté de Los Angeles pour ce premier match face à la Nouvelle-Zélande, tu l'as dit. Et puis il y a tout ce contexte autour de cette équipe iranienne, parce que pour tout vous dire, tous les médias du monde entier se demandent s'ils vont tenir des points presse assez régulièrement, comme c'est le cas de toutes les nations engagées dans cette Coupe du Monde. Est-ce que seulement le point presse officiel de la FIFA fera foi à partir de la semaine prochaine? C'est plutôt de ce côté-là où il y a encore de l'incertitude. Tous les trajets aussi de l'équipe iranienne sont incertains jusqu'au dernier moment pour pas donner d'indication de sécurité. Donc voilà, c'est un peu très particulier de suivre cette équipe iranienne, mais c'est aussi très intéressant parce que ça montre vraiment que la diplomatie autour de cette Coupe du Monde est ultra présente. Et donc voilà, c'est très très intéressant de suivre cette équipe iranienne au quotidien.
Oui, une Coupe du Monde vraiment particulière, on le rappelle, avec cette situation avec l'Iran qui est en guerre. Il y a actuellement notamment des bombardements et donc les joueurs qui sont présents sur le sol mexicain actuellement pour pouvoir jouer la Coupe du Monde, avec notamment des matchs, comme tu l'as dit, on aura deux à Los Angeles. Tu nous donneras tous les jours des nouvelles de ce qui se passe évidemment à Tijuana. On va continuer de parler de ce qui se passe lors de cette Coupe du Monde, parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a eu une fusillade près du camp de base de l'Angleterre. Donc là, ça se passe aux États-Unis par contre.
Oui, c'est à Kansas City, dans le Missouri, qu'une fusillade a éclaté cet après-midi. C'est The Athletic, le média anglais, qui le dévoile et qui parle d'une fusillade vers l'hôtel où l'équipe d'Angleterre séjournera pendant le tournoi. Alors l'équipe d'Angleterre n'était pas présente sur place parce qu'elle était en match amical du côté de la Floride, mais il y a eu quand même 9 adultes qui ont été blessés, qui ont été envoyés vers les hôpitaux du coin, et la police est toujours à la recherche du suspect qui a fait cette fusillade. Donc voilà, c'est aussi un pays qui connaît beaucoup de fusillades, et il va falloir aussi peut-être apprendre à vivre avec pendant cette compétition, cette Coupe du Monde. Il y a aussi un autre élément qui a beaucoup marqué ici du côté du Mexique et des États-Unis, c'est que plusieurs nations ont débarqué du côté des États-Unis et au poste frontière. Plusieurs joueurs, notamment des joueurs irakiens, notamment un des joueurs irakiens emblématiques et le photographe de l'équipe, ont été retenus pendant des heures et des heures par la douane américaine, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays organisateurs de grandes compétitions, parce que d'habitude c'est toujours organisé pour que les sportifs passent le plus rapidement possible ces contrôles de douane, et là ce n'est pas le cas, et donc des joueurs irakiens et le photographe qui ont dû se résoudre à répondre aux questions des douaniers et de l'immigration américaine pendant des heures, et même le photographe a dû rebrousser chemin et ne pourra pas rentrer sur le territoire américain, ce sont les dernières informations des médias américains. Donc voilà, c'est une Coupe du Monde très particulière sur l'extra sportif.
C'est le bazar quand même dans ton pays d'adoption, Maxime, hein.
Ouais, ça a pas l'air d'être évident pour les Irakiens, en effet. Après, bon, on connaît la situation aussi par rapport au port d'armes, hein, pour revenir à la fusillade à Kansas, malheureusement. Mais après, ça fait partie de la constitution des Américains, voilà, le droit de porter une arme. Après, ça, malheureusement, tu vois ce genre de scénario et de scène que tu ne vois absolument pas en Europe. Voilà, j'ai bon espoir que la sécurité pour les joueurs sera au point et qu'il n'y aura pas de problème sur cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai que quand tu vois un petit peu toutes ces informations, ça peut faire peur un peu de venue d'Europe. Mais il faut rester positif. On va avoir droit à une très belle Coupe du Monde sur le terrain.
Juste pour compléter ce que dit Maxime sur la sécurité des équipes, il y a plusieurs nations, j'ai pu discuter avec quelques entourages de nations. Il y a quelques nations qui sont quand même assez surprises par le fait que, par exemple, lorsqu'elles vont sur des centres d'entraînement, pas toutes sont escortées pour aller au centre d'entraînement. Donc des fois, ça prend des heures pour aller se rendre à l'entraînement. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte dans la préparation.
Quand tu dis des heures, tu veux dire qu'il y a des bouchons.
Enfin, non, une exagération. Voilà, une exagération. Ouais. Mais
surtout
c'est
quand
vraiment,
ça
peut prendre.
Quand même.
Ouais. Ça peut prendre quand même du temps pour aller à l'entraînement. Et donc d'habitude, lors des grandes compétitions, on met souvent en place des escortes policières.
C'est drôle que
et
tu dises ça.
Et pas toutes
hein.
les nations ont pu avoir ça depuis le début de la compétition.
Parce que moi, j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde des clubs là, l'été dernier, justement, avec le Los Angeles FC. Et moi, j'avais été surpris justement par le nombre de voitures de police qui nous escortaient pour aller au terrain d'entraînement. Alors pourtant, il n'y avait pas...
J'ai envie de croire plutôt
des...
Maxime.
Mais non, mais ça m'a surpris c'est... d'ailleurs. On en avait rigolé justement avec les joueurs en disant que la FIFA a dépensé un peu trop leur argent pour rien, parce que je vois pas quel bus. Enfin, il y avait pas énormément à sécuriser, t'imagines bien, dans le bus de Los Angeles. Bon, si ce n'est, il y avait quand même Olivier Giroud et Hugo Lloris, mais le reste des autres joueurs, ça valait pas énormément d'argent. Mais non, plus sérieusement.
Il y avait deux monuments quand même dans le bus.
Deux monuments, ouais, ça doit être pour eux alors. C'était sûrement pas pour Chanel en tout cas.
Dernière petite information, c'est que plusieurs nations aussi sont un peu surprises aussi par la qualité des pelouses sur les centres d'entraînement, qui n'est pas au rendez-vous. Et donc ça a été remonté du côté de la FIFA pour régler ce problème dans les prochains jours.
Mais on rappelle quand même qu'au niveau de l'organisation, alors c'était une répétition XXL lorsqu'il y a eu le match entre les Français et les Brésiliens lors du rendez-vous du mois de mars, mais c'était quand même très mal organisé avec des heures d'embouteillage.
Exactement.
Et avec des gros soucis.
Après, je veux bien que les fédérations comme ça puissent se plaindre à droite et à gauche. Maintenant, ça va. C'est pas la Coupe du Monde, c'est juste un tournoi international aux États-Unis.
Mais on espère que ça sera arrangé, parce que notamment le stade pour aller donc à Boston, le Gillette Stadium, c'est totalement lunaire, les accès.
Même à New York, même dans le New Jersey, vous allez voir. Alors ça va quand tu vas du côté de la Floride ou de Kansas, quoi que ce soit, parce que les villes sont quand même un peu moins peuplées et les routes sont plus larges. Dans les grandes métropoles américaines, c'est vrai que pour la sortie de stade, ça risque d'être compliqué. Et d'ailleurs, pour la finale qui se tiendra donc à New York, enfin à New Jersey, il faut savoir que ce stade-là, des fois, tu mets 3 à 4 heures juste pour sortir du stade, hein, tellement que
c'était le cas même à Boston, au Gillette Stadium, au mois de mars, avec des heures d'attente pour un match amical.
Il va falloir s'armer de patience, messieurs, dames.
Nico, tu nous as tout raconté de ton voyage à Tijuana, au plus près de la sélection iranienne.
Le voyage ne fait que commencer.
Magnifique. Écoute, fais attention à toi et découvre ce beau pays qui est le Mexique. On te retrouve évidemment sur RMC et vous pouvez retrouver la carte postale, notamment donc sur Tijuana, sur rmc.fr. Nicolas Pelletier qui est au contact de l'équipe iranienne qui est donc basée à Tijuana, alors qu'à la base, il devait être basé du côté de Tucson en Arizona. Dans quelques instants, l'After Foot continue. On va parler du Maroc. Est-ce que le Maroc peut faire mieux qu'en 2022 lorsqu'ils ont atteint la demi-finale de la dernière Coupe du Monde? On fera un point sur la Manchave qui s'est ratée lors des deux dernières éditions. La Belgique également, qui est aux commandes avec Rudy Garcia. Est-ce qu'il pourrait faire un gros coup, le Français, à la tête des Belges? On en parle dans la deuxième heure de l'After. À tout de suite.
RMC, l'After Foot.